Salut, bonsoir, bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Moi, ça a bien été, ça a été ensoleillé aujourd'hui, il y a de la lumière bien en masse, puis on va se le dire, quand on sait que le week-end approche, on dirait que ça nous donne un petit sourire. Sujet un peu plus léger ce soir que dans les derniers jours, léger mais très intéressant, c'est le Doc Boucher qui est avec moi en studio. On va parler de lui, on va parler de sa vie, son autobiographie, il va me parler de ses prises de poids, il va me parler des difficultés qu'il a connues en faisant ses jeûnes intermittents.
Oui, surtout celle-là.
Doc Boucher, salut!
Salut! Hey. Tu pars solide, Yannick?
Ben oui, je suis content que tu sois là, je suis bonne humeur, c'est le vendredi.
C'est tellement beau, beau dehors, c'est incroyable.
Puis t'es là, puis j'adore ça quand t'es là. Les auditeurs t'apprécient aussi. Fait que, tu vois, c'est un vrai.
Ouais, je suis étonné. Ouais. Avec tout ce que je raconte.
Ouais, tu brasses un peu, mais faut apprendre à connaître le personnage. Puis tu sais, il y a tellement de monde qui sont plates dans la vie, puis qui font des affaires des fois. Là, tu te dis, il est-tu en fin de vie? Il est là pour m'aider. Il veut m'apprendre des choses, mais il est-tu en fin de vie? Il n'a pas de l'air heureux. Toi, tu es un passionné, tu es tout le temps de bonne humeur. Puis tu nous brasses une fois de temps en temps. Quand je dis, hey, je reçois le Doc Boucher à soir, le spécialiste des tigros, les gens paniquent, ça veut se tirer par la fenêtre. Et voyons, ouais, donc, en 2024, dire ça!
Oh non!
Oh boy! Denis Boucher fait quoi, lui, dans vie?
Écoute, si tu parles de Denis Boucher, c'est entraînement et perte de poids depuis des années.
Ouais.
Tu vois, ce matin, tu me demandais qu'est-ce que j'ai fait. Ben, j'étais 2 heures au gym ce matin, moi.
Tu t'entraînes encore pas mal, 2 heures.
Ah, moi, c'est essentiel,
ouais,
à mon bien-être physique et mon bien-être mental.
Mais 2 heures, c'est-tu trop, ça?
Ou c'est parce que j'ai un entraînement bien structuré, je suis pas épuisé. Je finis par un 20 minutes d'étirement. Donc, puis tu vois, j'ai un 15-20 minutes de cardio léger que je commence.
Ouais.
Après, j'ai ma partie musculaire, puis j'ai ma partie étirement à la fin.
Puis tu jases-tu pendant 45 minutes? Là,
non. Je m'entraîne avec un collègue, un ami.
Ouais.
Puis, mais tu sais, je fais mon set, il fait son set. Donc, on est vraiment... Puis aujourd'hui, ça a fait tout l'ensemble des groupes musculaires.
Ouais. On parlait d'un gym où toi, tu as déjà été en affaires dans ce gym-là avec ton propre cabinet. Puis moi, c'est un gym où j'allais m'entraîner. Puis il y a des gars qui étaient là depuis les tout débuts. Tu sais, des fois, je m'entraînais là depuis 2-3 ans. Je regardais les gars, leur taille n'a jamais changé. Ils n'ont jamais perdu de poids, mais ils sont là tous les jours. Chaque fois que j'étais là, ils étaient là tous les jours, puis ils jasaient tout le temps. Ils allaient faire le social.
90% des gens en gym n'ont aucun résultat.
C'est 90?
Ben écoute, je te dis une statistique de même, là, mais si tu regardes généralement, des gens qui s'entraînent, prends-les, là, tu vois, ils ne changent pas. La majorité des gens ne changent pas. Ils s'entretiennent.
Ouais.
Mais ils ne changent pas vraiment physiquement. Là. Moi, tous les petits gros que je jouais en gym, s'ils étaient petits gros il y a 3 ans, puis ils s'entraînent encore, ils sont encore petits gros même s'ils s'entraînent.
Okay, mais
ils n'ont pas changé leur alimentation.
Mais c'est-tu leur corps qui est fait comme ça? Ou?
Non. Ben un peu ce que tu dis. Il y en a, c'est beaucoup du social qui va là. Puis tu t'entraînes, c'est bien, mais si tu ne gères pas bien ton alimentation, ça changera. L'exercice ne changera rien.
Mm.
Tu sais, c'est une combinaison, ta réussite. Ce que tu vas faire comme transformation avec ton corps, c'est ton alimentation, c'est ton entraînement, c'est dans quelle zone tu t'entraînes, c'est quoi ton apport en calories, protéines, lipides, glucides, c'est quoi ta période de repos, c'est quoi ta qualité de sommeil, c'est quoi ton niveau de stress. Tout ça va influencer ton métabolisme et les résultats que tu vas obtenir.
Mm.
Les gens ont de la difficulté à comprendre ça.
Oui, bien, tu sais, je parlais avec un gars tantôt. Je nommerai pas de nom, c'est pas quelqu'un avec qui je travaille, mais je parlais avec un gars tantôt, puis il disait, ben, tu sais, moi, je m'entraîne, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris. Je t'entraîne depuis combien de temps? Ça fait 5-6 ans là, que je m'entraîne de façon assez intense. Puis je regardais ses épaules. Ses épaules me disaient pas qu'il s'entraînait. je regardais sa shape. Sa shape non plus me disait pas qu'il s'entraînait.
Mais de qui tu parles quand tu me dis ça?
Je sais que c'est un gars qui aime jaser, fait que je me suis dit, OK, ben lui, il va faire son social au gym plus que d'aller se chercher une forme physique avec une certaine charpente.
Mm-hmm. Mais c'est quand même bien, parce qu'il y a des gens que ça leur fait du bien.
Ouais.
Sortir, aller jaser, faire un peu d'exercice, c'est suffisant pour eux.
Ouais. Mais t'en vois dans le gym des gens qui font juste jaser, puis à un moment donné, ils arrivent à une machine, ils font ça tout croche, ils s'en sac, puis après ça, ils repartent à un autre. Là. Au début, ils travaillaient ses biceps, puis après ça, il est sur le point de travailler ses mollets. Là,
c'est... Oh, oui, hein? Ben, y en a, c'est essentiellement ça. Beaucoup chez les personnes plus âgées, où c'est vraiment la notion sociale qui est plus importante.
Ouais.
Puis, ils font... 2-3 minutes d'exercice, 15 minutes de discussion avec le monde dans la salle, 2-3 minutes d'exercice, puis après, ils sont partis. Ouais, j'ai fait une heure d'entraînement aujourd'hui.
Si ça leur fait du bien.
Exactement.
Mais on le sait que vous nous mentez. Hey, je suis le Bernard Pivot de la radio, tu savais. J'ai le goût de vous apprendre des mots. Connaissais-tu le mot calisthénique?
Ben, tu viens de me l'apprendre au niveau de l'entraînement. Je le savais en anglais, mais au niveau de l'entraînement, non.
C'est calisthénique, c'est la musculation au poids du corps. C'est l'art d'utiliser son poids du corps comme résistance pour développer son physique. Et toi, de me répondre tantôt... Ben, je faisais ça au karaté.
Hey, il y a 40 ans, je m'entraînais essentiellement au poids de mon corps, puis on disait entraînement au poids du corps.
C'est ça. Puis là, ils ont trouvé un mot.
Oui, ils ont trouvé un mot.
Ils ont trouvé un mot, puis il y a des plans d'entraînement sur la calisthénique ou la calisthénie, là, maintenant, qui se donnent sur les réseaux sociaux. Fait que tu peux payer pour t'entraîner au poids de ton corps. C'est tout simplement, ça peut être des push-ups. Push-ups, ça pourrait être considéré comme de la calisthénie.
Oui. Hey, parlant de push-ups.
Ouais.
Je peux-tu te conter un plan de mon histoire de jeunesse?
Oui, ben oui.
C'est qu'à 16 ans, à l'école, parce que je m'entraînais beaucoup, j'étais un des seuls à avoir des pecs. À 16 ans, j'avais des pecs.
C'est vrai? En raison des push-ups?
En raison des push-ups, d'entraînement au karaté, j'étais musclé. J'avais pas de misère avec les jeunes demoiselles.
Ben non!
À l'époque, c'était spectaculaire.
C'était pas Denis Boucher à l'époque, c'était Doc Gorille.
Doc Gorille. Alors, c'est ça. Donc, c'était un bon souvenir de l'entraînement au poids du corps.
Oui. Les push-ups, on dirait qu'on dirait que c'est plus là. T'sais, j'en vois plus des gens qui font des push-ups alors que c'est un exercice qui est pas pire. Là, je vois des gens qui font la planche, là, mais ils font pas de push-ups. Je me dis, mais la planche, c'est des push-ups où tu bouges pas.
Les abdominaux.
La planche?
La planche, c'est pour les abdominaux.
Mais tu fais travailler aussi ton dos un peu?
Ouais, t'as pas le choix pour être stable.
Okay.
C'est dans le fond la ceinture abdominale qui travaille.
Ouais.
Donc tes abdominaux et ta région lombaire qui travaillent pour te garder stable. Mais tu sais, tu bouges pas parce que tes push-ups, c'est tes pectoraux et tes triceps qui te servent et tes épaules.
Mais tes abdos aussi travaillent?
Tes abdos aussi travaillent, mais pas autant que si
juste
tu fais
la planche.
Okay. Juste la planche. T'as-tu déjà vu Bruce Lee faire ses push-ups sur un index?
Ouais, ça, c'est organisé, ça, non?
Non. Parce que moi, au karaté, c'est énormément les push-ups. Fait que moi, j'avais des push-ups, c'est deux jointures, t'essayeras ça?
Ouais.
Sur le terrazzo, là, deux jointures comme ça, c'est qui applique au sol, sur le bout des doigts, sur trois doigts.
Puis lui, il le faisait sur un doigt.
Lui, il faisait sur un doigt. Ben, tu sais, il faisait 5 et 4, 130 livres, là, on s'entend que ça aide un peu, probablement, là.
Ouais.
Mais c'était ça. Fait que les push-ups, moi, j'en ai fait des tas. J'ai fait un petit programme d'entraînement que j'ai fait sur Facebook, là. Seulement des push-ups. 7 minutes d'entraînement en push-up.
Mais c'est parce que ça met en shape.
Ben
mais c'est
oui,
un exercice
ben oui.
que les gens ont tendance à oublier. Les gens disent tout le temps, « Ah, mais là, je vais aller au gym dans un mois. Ah, ben là, je vais aller au gym dans 2 mois. » Mais il y a des exercices que tu peux faire chez toi, à la maison.
Ben, ma femme, moi, j'ai monté un programme d'entraînement sur chaise qu'elle fait à la maison.
Puis ça coûte rien.
Elle zéro et puis une barre. Fait qu'elle trippe, ça fait 3 mois qu'elle fait le programme.
T'as fait un entraînement à ta femme de calisthénie.
De calisthénie sur chaise.
Sur chaise.
Je peux le dire avec le petit doigt en l'air peut-être. Hein? Alors.
Puis ça marche?
Ben oui, ça y fait du bien. Ça y fait du bien.
Puis là, le printemps arrive, les gens vont recommencer à marcher un peu.
Exact.
Ce que tu m'as appris à moi, tu vas dire que tu étais un retardé, puis j'étais content de te l'apprendre. Mais ce que tu m'as appris à moi, c'est que moi, au lieu de marcher, je me disais, mais non, je n'irai pas marcher, je vais aller courir. Mais là, ça ne me tente pas de courir aujourd'hui. Mais tu disais, mais Yann, fais juste le même kilométrage en marchant, tu vas perdre autant de calories. Ton cœur ne battra pas peut-être autant.
Non.
Mais tu vas perdre autant de calories.
Oui.
Tu sais, pourquoi on le fait pas? Parce qu'on ne sait pas.
Parce qu'on ne sait pas. Puis aussi, une chose, c'est que les gens pensent qu'on doit toujours être toujours de plus en plus en forme. Mais c'est pas vrai. Tu fais ta marche, ça te fait du bien, ça te garde en forme. Tu n'es pas obligé d'aller courir pour être encore plus en forme. Parce que dans notre société, c'est toujours plus de conditions physiques. Fait que les gens sont jamais contents. Mais comme on le disait, cours 5 km ou marche 5 km, c'est la même dépense énergétique. Va marcher ton 5 km, reviens, ça va être excellent. Ça va être parfait.
Oui. Mais c'est pour ça la petite marche après le souper, c'est bon pour tout le monde.
Là. Ben oui.
Ouais. C'est juste que je le savais pas. Puis tu disais, tu sais, Yann, les gens, ils se disent, ben là, je vais marcher, mais là, il fait pas beau, mais là, Mais juste conserver sa petite forme physique, c'est important. Surtout arriver à un certain âge, puis c'est là où je voulais en venir avec toi, je viens de le retrouver. Je l'avais perdu, tu t'en étais pas rendu compte.
Non, pas du tout.
Je pense que oui, mais... Tu sais, j'ai travaillé pendant la pandémie, moi, j'ai été faire du bénévolat, puis j'ai été travailler aussi en sécurité avec la belle gang des Châteaux Bellevue.
Oui, tu m'avais conté ça.
Il y avait besoin de gens pour s'occuper des personnes âgées qui étaient à l'intérieur de leur bâtisse, puis surveiller aussi que ces gens-là se perdent pas, puis qu'il n'y ait pas d'autre monde qui rentre pour pas que la COVID se promène, tu sais. Et il y avait parfois des interdictions de sortir à l'extérieur. Je trouvais ça atroce. Tu sais, juste aller marcher dans le stationnement. Puis à un moment donné, ben ils ont permis à des gens d'aller marcher dans le stationnement. Puis d'autres, ben ils ne pouvaient pas se promener dans les corridors. On voulait pas que la COVID se propage. Fait qu'ils restaient dans leur chambre puis ils faisaient plus d'exercice. En quelques semaines, j'ai vu des gens, là, la santé décliner. Des gens qui étaient capables de marcher d'un pas assez régulier, qui disaient « Bonjour Yannick, comment ça va? » Ils revenaient puis ils me parlaient de ça. À quelques semaines plus tard, avoir de la misère à marcher.
Oui. Une fonte musculaire. 21 jours sans bouger ou alité. Hein,
ouais.
Tu as une perte de masse musculaire qui est astronomique. Et ta masse musculaire, c'est le meilleur prédicteur de ton risque de mortalité. Alors, au moment où tu perds ta masse musculaire et que tu perds la capacité, tu rentres dans cette notion-là de problématique sarcopénique où ta masse musculaire n'est plus capable de déplacer le poids de ton corps. Là, tu dépéris. Donc, tu as la suite là, qui s'enchaîne. Tu as ton cœur qui va défaillir, tu vas perdre tes capacités cognitives parce que ton corps est plus stimulé du tout. Puis imagine te voir dépérir tout le stress, l'anxiété que tu dois. Quand tu en es conscient, ça va être terrible.
Ah, puis en quelques semaines, je les ai vus dépérir. Il y avait aussi, ils m'avaient prévenu, mais moi je trouvais ça plus payant faire des journées puis des nuits. Là, fait que je faisais ça aussi. Puis on m'avait averti qu'il y avait des gens qui faisaient de l'errance.
Oui.
Puis fallait pas les laisser faire de l'errance. Puis moi, je suis un petit bum dans la vie. Ce qui fait en sorte que je me disais, ben si elle fait de l'errance dans le corridor.
Je vais aller errer avec.
Puis elle fait pas de mal à personne. Puis elle crie pas. Puis elle cogne pas nulle part. Elle fait juste se promener à la bouche.
Oui.
Puis elle était seule. Puis je la laissais faire son errance. Puis elle m'a rentré dans sa chambre parce que son errance était terminée. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête concrètement. Mais ils bougeaient, tu sais. Je la laissais bouger.
Oui.
Là. Puis c'est complexe quand tu vois ça. Là. Tu la vois, elle sort de sa chambre à minuit et quart. En robe de chambre avec les cheveux blancs, là, tu te dis, coudonc, elle va-tu sortir avec un couteau? C'est comme un film d'horreur, tout ça. Mais non, elle fait juste de l'errance, elle se promène, elle va d'un bord, elle va de l'autre, elle va d'un bord, elle va de l'autre. Mais elle dépensait de l'énergie.
Oui.
Elle bougeait.
Exactement. Un corps humain, c'est utilise-le ou perds-le. Puis le lien entre l'exercice, bouger, faire l'exercice, entretenir ta masse musculaire, il y a un lien très évident avec le maintien de tes capacités cognitives. Plus tu es en forme, meilleures sont tes capacités cognitives. Et meilleure est ta réserve cognitive aussi, c'est-à-dire, je vais te mettre ça en termes concrets. Prends quelqu'un qui a un QI de 125, puis quelqu'un qui a un QI de 105. Si tu perds des capacités cognitives, tu comprends, la personne qui a le plus haut QI a de plus grandes réserves cognitives que l'autre qui a juste 105 de QI. Mm-hmm. Si les deux perdent une capacité cognitive, celle de 105, tu vas t'en rendre compte rapidement. L'autre, elle va être capable de compenser parce qu'elle a plus de réserves cognitives. Et le fait de t'entraîner maintient ton cerveau actif, maintient la connexion, la qualité de l'interconnexion de tes cellules nerveuses. C'est vraiment très important de faire de l'exercice tout au long de sa vie.
Exact, exact. Est-ce que quand tu as des clients, Doc Boucher, tu reçois des gens, puis tu leur jases un peu, puis tu te rends compte que... Oui, ils ont une volonté de perdre du poids, de recommencer à bouger et tout ça, mais au niveau du mindset, c'est pas encore à point. Puis je m'explique, j'avais déjà jasé avec toi d'un documentaire, une série documentaire sur Netflix où on dompe des gens qui ont certaines facultés de rester dans le bois.
Ouais.
On les met, je pense que c'est en Alaska, je m'en souviens pas, mais c'est dans le nord. Puis on les dompe là. Puis il y a une femme qui réussissait là, du matin jusqu'au soir à se réchauffer, se loger, manger. Elle faisait toutes ses tâches au quotidien. Puis je me suis dit, elle, ça va être la gagnante. Puis à un moment donné, vers la fin de la série, à un moment donné, elle dit, je trouve ça dommage parce que ma tête est encore là. Mais c'est mon corps qui est en train de lâcher. Elle avait des parasites, ce qui faisait en sorte qu'elle perdait du poids rapidement. Puis elle pouvait plus manger, puis elle vomissait. Fait qu'elle dit... C'est mon plus grand regret, c'est que mon corps m'ait lâché avant ma tête.
Ouais.
Il y en a quand les deux oreilles sont faites extrêmement fortes.
T'as tout à fait raison. Fait
que toi, quand tu les rencontres, t'évalues tout ça aussi en disant, regarde...
Oui, je le vois facilement dans la discussion que je vais avoir avec eux autres.
Ouais.
Et je vais t'en donner une que j'ai eue cette semaine. Okay? La personne me dit, Denis, je veux te jaser parce que moi, j'arrive pas à maigrir. Là, tu vois, Denis, moi, j'ai essayé, OK, le jeûne intermittent. Bon, j'ai perdu du poids, mais après, je l'ai repris. Deux, je suis allé vers l'exercice de plus haute intensité. J'ai décidé de courir 10 km par jour, 5 jours par semaine. Ouais, t'as charrié un peu. Ça n'a pas marché. Je me suis brisé les genoux un peu. Là, j'ai ralenti l'exercice. J'ai réengraissé. Là, j'ai essayé telle autre méthode. Oui, OK. J'ai dit, on peut s'arrêter? J'ai dit, pourquoi tu cours de gauche à droite comme ça? Pourquoi l'équilibre de vie t'intéresse pas? Et pourquoi tu t'évades comme ça et que tu t'auto-sabotes de cette manière-là? Et il y a des gens qui ne sont pas capables de se ramener. Il y a des gens qui ont l'incapacité de focaliser leur attention sur un plan précis et efficace qu'ils vont maintenir dans le temps. Ça, si tu me demandes pourquoi, je ne le sais pas. Est-ce en relation avec le QI? Est-ce en relation avec le niveau d'éducation? Est-ce en relation avec d'autres choses? J'en ai aucune idée, mais je suis capable de le voir. Quand quelqu'un est dispersé dans son langage comme ça et que tu n'es pas capable de le ramener, ou que tu vas lui présenter la solution et qu'il te trouve, il trouve des problèmes à toutes les solutions que tu lui présentes, tu dis, il n'y arrivera jamais.
Malgré le fait que tout ce que tu lui présentes, toi, ça a été étudié, là.
Oui, c'est étudié. J'ai des clients depuis des années là-dedans.
Tu as une expérience acquise. La personne se pointe devant toi. Elle veut faire affaire avec toi parce qu'elle a eu de bonnes recommandations. Puis elle t'ostine encore sur les choses que tu essaies de mettre en place avec elle pour l'aider, elle.
Ouais. J'ai une cliente, il y a deux semaines. Avant, elle ne perd pas de poids. Elle embarque sur mon programme. Puis j'ai dit, tu fais mon programme tel que je te le prescris. Je suis un dictateur, tu vas le suivre parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Elle le fait, je suis obligé de la diminuer du volume d'entraînement et d'intensité d'entraînement. Elle obtient des résultats. Ses résultats sont au rythme d'une livre par semaine, ce qui est, dans ma moyenne, parfait pour moi. C'est une perte de poids progressive et saine. Elle ne perd pas de masse musculaire.
Il y en a qui ne trouvent pas ça gros, une livre par semaine, mais prenez une livre de beurre, là.
Exact.
Puis regardez-les, la livre de beurre, puis c'est ça que vous avez
c'est
perdu.
C'est ça que tu as fondu dans une semaine.
Ouais.
Et là, sa question est, Denis, quand est-ce vais-je pouvoir m'entraîner de nouveau comme avant? Mais la réponse, c'est jamais. Mais elle dit, pourquoi j'aimais ça? T'aimais peut-être ça, mais t'avais des résultats totalement négatifs. Alors, pourquoi tu ne veux pas rester dans ce qui te cause le moins de troubles, le moins d'épuisement et qui te produit le plus de résultats? Oui, mais moi, j'aime ça. Il y a des gens qui se donnent une attitude, un air, des croyances, puis ils se sentent dans la gang parce qu'ils s'épuisent à l'entraînement, puis ils veulent ça, mais tes résultats sont pas là. Les gens veulent pas, malheureusement, s'orienter vers la chose la plus simple qui produit les meilleurs résultats. C'est pas spectaculaire. Ça serait plus spectaculaire si j'arrivais et je te disais, Yannick, ben regarde, j'ai fait un post cette semaine. Je marque une révolution dans le domaine de l'entraînement. Le Doc Denis Boucher lance le Bionic Trainer Pro 970 SX. Entraîne-toi seulement 10 secondes par semaine et tu transformeras ton corps. Mais tu sais, c'est ça que le monde veut. Ils veulent du spectaculaire. Donc, je ridiculisais le fait que si j'étais quelqu'un de malhonnête...
Là, tu me dis que c'est pas vrai, ça?
Non, c'est pas vrai.
Fait que tu vas-tu me rembourser?
Oui, je vais te rembourser. Là, tu l'as acheté?
Ben oui.
Putain, c'était pas cher. Ben 10 000 piastres, c'est l'appareil.
Ça. Ben oui, j'en ai pris 3. Je me suis dit, je vais l'encourager. Entraîne-toi 10 secondes.
Mais tu comprends que les gens veulent ça, veulent le spectaculaire.
Ouais.
Moi, je vends du plat de l'équilibre de vie. Fait que c'est sûr que quand tu vois une annonce, hey, tel artiste a perdu tant de livres en tant de temps grâce à la poudre de perlimpinpin, machin chose, les gens s'en vont vers là parce que c'est plus simple faire ça que de dire hey, faut que je commence à réfléchir, à analyser un journal alimentaire, faire de l'exercice sur une base régulière, pas épuiser mon corps. Puis je suis pas d'une gang, qui trippe, là. Je suis pas avec une gang de vegan, puis je suis pas avec une gang de jeûne intermittent. Je suis juste moi face à moi-même avec un équilibre de vie. C'est pas spectaculaire. Fait que je disais, dans le fond, si j'avais été malhonnête, je serais allé vers, je vais vendre la poudre de perlimpinpin, puis je vais vendre des produits miracles, des appareils miracles. Mais la réalité, c'est que je le sais que ça marche jamais, ça dure pas, cette chose-là. Donc, je suis resté dans mon domaine d'équilibre de vie, mais c'est pas spectaculaire.
Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont incapables de refaire les mêmes tâches chaque jour dans l'espoir de conserver leur poids. Puis je sais pas pour quelle raison.
Mais
la petite marche le soir, là, c'est une petite marche bien relax que tu fais avec ta conjointe puis ton conjoint ou la marche que tu fais avec ton chien, c'est bien relax, mais ça l'aide en maudit pareil. tu continues de bouger, tu fais quelque chose de plus que ce que tu as fait dans ta journée.
Dans une de mes formations, je disais à mes clients, si ton objectif n'est pas ta priorité, n'est pas d'une importance capitale pour toi pour le reste de ta vie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le plan. Quand tu vas avoir atteint ton objectif, tu vas arrêter. Parce que pour toi, la fin est arrivée. Tu as atteint ton objectif. Mais la réalité, c'est que quand tu as atteint ton objectif, c'est là que ça commence. Parce que ça, c'est pour le reste de ta vie. Tu sais, on parlait d'Arnold Schwarzenegger là, dans un autre épisode.
Ouais.
Je tombe dessus sur une conférence qu'il donne. Et Arnold, il dit, à l'époque où j'ai voulu devenir Monsieur Univers, j'avais un but. C'était de devenir Monsieur Univers. Je m'entraînais 5 heures par jour. Okay? Et chaque répétition que je faisais, même si elle était douloureuse, je le faisais avec bonheur parce que je savais que ça me rapprochait de mon but. J'ai jamais lâché.
C'est ça, du mindset.
C'est du mindset. Quand il a voulu devenir acteur, il a fait la même affaire. Quand il a voulu devenir gouverneur, il a fait la même affaire. Puis avant ça, il avait d'autres objectifs. Il est devenu millionnaire dans l'immobilier avant même de commencer quoi que ce soit dans sa vie. Et les gens ne comprennent pas cette dimension de mindset ou d'état d'esprit, si on le traduit en français, qui est atteindre un objectif, c'est la première phase. Tu as suivi des comportements qui t'ont amené à cet objectif. Un coup que tu l'atteins, c'est là que ça commence. Mm. C'est si tu veux le maintenir pour le reste de ta vie. Il faut qu'il soit assez important pour toi pour que tu te dises, ces comportements que j'ai acquis qui m'ont amené à des résultats, je vais les poursuivre jour après jour pour le reste de ma vie. Qui veut vraiment ça? T'en as pas des tonnes. Regarde, on va donner plein de conseils aujourd'hui là, qui devraient, normalement, qui sont très utiles. 99% des gens ne les appliqueront pas. Ils vont les écouter. Ils vont dire, c'est tellement intéressant. Oh, que j'aime ça, ce qu'il raconte. C'est-tu bon, hein? Mais OK, c'est bon, mais vas-tu le mettre en application? 99% des gens, ça va être non.
Tu sais, j'avais une discussion, puis des fois, je me laisse avoir aussi, là, tu sais, il n'y a personne de parfait, puis moi, le premier, je suis vraiment pas parfait, mais des fois, quand je vois un gars comme Connor Bedard, tu sais, qui va être, sans l'ombre d'un doute, un des meilleurs joueurs, ben, en fait, il est déjà un des meilleurs joueurs de hockey de la Ligue nationale, mais il a seulement 18 ans.
Oui.
Puis, je parlais de ça avec mes gars en disant, tu sais, Connor Bedard s'entraîne fort, il a 18 ans, il est capable de rivaliser contre des gars qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont plusieurs années d'expérience dans la Ligue nationale. Puis il fait des choses que les gars n'ont jamais vues de leur vie, tu sais. Puis en creusant un peu plus, je m'aperçois que Connor Bedard, à la fin de ses entraînements, ben il demande des chaudières de rondelles. Puis c'est 1000 rondelles de plus qu'il envoie au filet à chacun de ses entraînements, comparativement à ses collègues qui, eux autres, rentrent dans la chambre, sont brûlés, sont fatigués et tout ça. Mais Connor Bedard, son tir du poignet, c'est un des meilleurs tirs du poignet de la Ligue nationale de hockey. En raison de ça, Georges St-Pierre m'avait dit, ben en fait, il nous avait dit, je l'avais vu en conférence, il dit, je travaillais tellement fort à me demander pourquoi je travaillais aussi fort, puis à chaque fois, il fallait que je me rappelle mon objectif. Puis une fois que j'ai atteint mon objectif d'être champion du monde de UFC, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille encore plus fort pour le rester, parce que tout le monde analysait
ce que je faisais,
puis mes faiblesses. T'imagines, c'est un combat contre toi-même, mais c'est un combat aussi entre ce qui se passe mental. Entre tes deux oreilles. Tu sais, Connor Bedard, 1000 rondelles de plus, il a 18 ans. Il fait 1000 rondelles de plus que ses collègues.
Tu me rappelles une recherche scientifique, parce que quand je faisais beaucoup de psychologie sportive, un expert dans son domaine, c'est quelqu'un qui va faire ce que les autres ne font pas. Le 1000 rondelles de plus que Connor Bedard fait, imagine tout ce que ça lui apprend que les autres n'apprendront jamais. Mm-hmm. Donc, les experts vont travailler sur des détails, sur des choses spécifiques que les autres ne veulent pas travailler. C'est pour ça qu'ils arrivent à des tops comme ça.
C'est ça.
Parce qu'ils ont du fun, ils ont du plaisir, c'est une passion, puis ils veulent aller plus loin. Ils vont faire les choses que les autres ne veulent pas faire.
Puis, quand je te dis que j'étais pas parfait, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un fou, ça, Chris. Voyons, c'est sérieux, il va être multimillionnaire, c'est déjà un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, puis il fait 1000 rondelles de plus. C'est un fou, ça, Chris.
Mais c'est le coût de son succès. C'est ce que coûte son succès.
Puis c'est la raison pour laquelle il est au top.
Ben oui.
Fait à faire toujours ce qu'on fait en espérant un résultat différent, on n'est pas dedans. Puis, tu sais, je veux juste revenir à cette dame-là qui s'est présentée en disant, oui, mais Denis, j'aimais ça m'entraîner comme je m'entraînais avant, c'était le fun. Mais tu lui as dit, écoute, ce que tu faisais avant ton entraînement, ça ne te donnait rien. Non. Puis là, on t'a mis un programme d'entraînement que tu as suivi, qui a du résultat, puis tu veux revenir à ton rien d'avant parce que ça te donnait du plaisir.
C'est weird. C'est très weird. Puis, c'est parce que ce que je fais, ce que les gens ne voient pas, c'est que dans mon programme de perte de poids, il y a beaucoup d'aspects psychologie sportive. L'atteinte des objectifs, la structure de pensée, le mindset dont on parle, la persévérance, parce que ça fait partie de cet apprentissage. Et tout ce qui se passe en perte de poids pour atteindre tes résultats, c'est le même processus que dans tous les autres aspects de la vie. C'est ce que Conor Bedard fait, c'est ce qu'Arnold Schwarzenegger a fait pour atteindre ses objectifs. Mais ce que tu te rends compte, c'est que la majorité des gens veulent quelque chose pour lequel ils ne seront jamais prêts à payer le prix pour l'atteindre. Donc, ils vont courir à gauche, à droite, en haut, en bas, mais ils viseront jamais la cible parce qu'ils savent que ça coûte trop cher. Ils vont faire de l'évitement parce que ça implique des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il faut que tu y investisses du temps, il faut que ça ait de la valeur pour toi, il faut que ce soit important. Puis si tu n'as pas ça, tu vas faire pendant un petit bout un programme, puis tu vas l'abandonner à un moment donné parce que c'est tu n'as pas le guts, le grit. En anglais, ils appellent ça le grit, la passion et la motivation de l'atteindre.
Je parlais avec Eric Martel-Bawelli, le boxeur. L'ancien boxeur, un gars que j'aime bien. Puis ceux qui l'ont déjà vu savent que c'est un armoire à glace. Là. Il est autour de 2,40-2,50.
Ça doit faire mal un coup de poing de ça.
C'est 3, c'est 4. Bon, j'ai déjà offert, là, qui m'en donnait une pour voir.
Ça m'en donnait rien. Quand ça allait pas bien dans ta tête.
Il dit, je veux pas te faire de la commotion cérébrale. Puis tu te bégayes déjà d'avance. Je veux pas empirer les choses. Mais ce qu'il me raconte, c'est que Eric Martel-Bawelli, ce qu'il me racontait, c'est qu'il court énormément.
Oui.
Puis, tu sais, j'ai dit, mais tu sais, à grosseur que t'as, à grandeur que t'as, t'as pas peur d'user peut-être un peu plus ses articulations. Puis lui m'avait dit, avec la conception de son corps, comme, parce qu'il est gros de partout, là, tu sais, il a des gros bras, des grosses épaules, il a des gros genoux, des gros jambes, il dit que le corps s'adapte. Puis on avait déjà jasé, toi puis moi, des gens, moi, que je voyais au gym des fois qui étaient en surplus de poids, évident, mais c'est de l'obésité morbide, puis on les mettait sur des appareils. Des fois, je me disais, ça me semble que c'est dur pour leur articulation. C'est quoi la différence entre un gars top shape avec une musculature là, t'sais, olympienne qui donne des coups sur ses articulations versus quelqu'un de 5'2", 5'3", qui en pèse 300? C'est quoi la différence? Est-ce que les articulations de ces gens-là s'adaptent aussi au poids de l'individu?
Oui. T'as deux différences. L'adaptation musculaire, parce qu'ils sont déjà entraînés, donc les muscles sont capables de produire de l'énergie. Ils ont une meilleure connaissance biomécanique de leur corps. Donc, quand tu cours, tu as un retour de force du sol, ils sont capables de s'adapter à ça. Et en courant, ils ont moins d'impact sur les genoux que quelqu'un de 5 et 2 qui n'a pas de condition physique, qui commence à courir, il est déjà essoufflé, il court après son souffle, il a la fréquence cardiaque dans le prélard, puis il n'a aucune notion de biomécanique, puis tout ce qu'il fait, c'est une frappe au sol au lieu d'avoir un retour de force.
Fait que toi, t'es frais marcher.
Moi, j'ai fait marcher. Moi, je dis, quand tu as 25 livres de trop, tu cours pas, tu marches. Ça, tous mes gens en perte de poids,
c'est intéressant à savoir ça.
Peu importe le poids, vont marcher. Tu vas recommencer à courir quand je vais te dire que tu as le droit de recommencer à courir parce que je vais le savoir. Mais à l'heure actuelle, les gens l'ignorent.
Okay. Puis tu te fies sur quoi, ça? Uniquement sur le poids?
Le poids, puis dans le fond, le pourcentage de gras, où il en est rendu. Mais quand tu as de la masse inerte, tu as 25 livres de gras, prends-toi un sac à dos de 25 livres, va courir. Regarde la différence sur tes genoux. Tu vas te rendre compte que c'est une autre chose, là. C'est de la masse inerte.
Oui, puis tu uses tes genoux de façon prématurée, j'imagine. Oui,
puis ton athlète, lui, ben c'est pas de la masse inerte. Il y a un pourcentage de gras à 12 ou 14 %. C'est un athlète, des fois 10. Fait qu'il va suivre... Tous ses muscles, ce qui produit de l'énergie, c'est ses muscles. Tandis que la personne qui est en surplus de poids, qui a moins de muscles, puis qui a une surcharge pondérale, qui a vraiment une masse inerte en gras, ben il faut qu'avec une faible masse musculaire, transporte une plus grosse masse inerte. C'est inévitable qu'il va se blesser.
Ouais. Puis le poids, c'est-tu le seul indicateur? Je pense que j'ai déjà raconté. Bon, je te fais rentrer un peu chez nous. Ma blonde, elle me dit « Bon, Yann, je commence à m'entraîner, tout ça. » Puis elle n'a pas gros sur le corps. Là, c'est pas une fille qui a bébé du gras. Puis elle était un peu déçue quand elle se pesait parce que son poids augmentait.
Ouais, prise de masse musculaire.
Ben, c'est ce que j'y expliquais. Mais elle, dans sa tête, elle avait un objectif, c'est qu'elle voulait peser 114 livres comme lorsqu'elle avait 21 ans.
Ça, c'est la chose que j'explique à mes clients. Je vais vous donner un pourcentage de gras à atteindre et non pas un poids à atteindre.
Mais pourquoi c'est si compliqué pour ces gens-là qui se disent « Ah non, mais moi, je veux peser 115. Je me suis toujours bien senti à 115. » Oui, mais t'as peu. C'est parce que tu t'entraînes. Donc, nécessairement, tes muscles vont grossir. Ils vont s'hydrater, ces muscles-là. Ils vont avoir un certain poids. Mais tu vas perdre un pourcentage de gras. C'est ça l'objectif recherché.
C'est ça l'objectif recherché. Mais les gens ne comprennent pas que la composition corporelle, parce qu'on peut l'analyser, on peut la pousser très loin sur le niveau scientifique, mais c'est ton poids, ta masse grasse, ta masse maigre, ton taux d'hydratation. Et si tu ne te fies qu'à la balance, tu vas te tromper. Parce que le meilleur profil métabolique que j'ai au niveau de la perte de poids, c'est quelqu'un qui perd du gras et qui gagne de la masse musculaire. Le deuxième en profil, c'est quelqu'un qui perd du gras, maintient sa masse musculaire. Le pire profil, tu perds un peu de gras et beaucoup de masse musculaire. Parce que les gens ne réalisent pas qu'en perdant du poids, il y en a énormément à cause des diètes et des conneries qu'ils font, que la majeure partie du poids perdu est en masse musculaire et en eau. Et là, ils sont tout contents parce que ça balance, ils voient leur poids diminuer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans 20 semaines, ils ne seront plus capables de tolérer ça. Le poids va repartir en montant, puis ils vont abandonner parce qu'ils vont être trop épuisés, ils vont être affamés, il n'y a plus rien qui va fonctionner, ils ne seront plus capables de garder la motivation.
Ablon, étant infirmière clinicienne, elle m'avait raconté une histoire d'une infirmière qui parlait avec un médecin, puis elle dit « Je suis assez contente, là, j'ai pris telle poudre de perlimpinpin, puis elle dit « Ça a marché, j'ai perdu du poids. » Puis le médecin, il dit « Mais t'as fait quoi pour perdre du poids? » Ben, j'ai juste pris ça. Il dit « OK, quel impact que ça a eu sur ton corps? » Ben, j'allais tout le temps aux toilettes. Ben, c'est bien simple, t'es déshydratée, ma belle.
Ben oui.
T'as plus rien.
Exactement.
T'es déshydraté. Fait que c'est pour ça que t'as perdu du poids.
Il n'y a pas une poudre. Puis je m'obstinais avec quelqu'un qui me disait telle poudre, Denis, va faire maigrir. Là. Ils disent que. OK, ils, c'est qui, premièrement? OK, est-ce que c'est un scientifique? Est-ce que c'est quelqu'un? Ou t'as entendu ça de façon générale? Bon, j'ai entendu ça de façon générale. Maintenant, explique-moi physiologiquement comment la poudre que tu vas mettre dans ta bouche va traverser ton intestin, s'en aller dans tes cellules et brûler le gras dans tes cellules adipeuses. Explique-moi comment. Pas capable. Mais j'ai dit ça, là, ça n'existe pas. Pour que la poudre te fasse maigrir, il faudrait qu'elle fasse tout chemin-là, rentre dans tes cellules adipeuses et les carbure-là. Mais la seule manière de brûler du gras, c'est parce que ton corps en a besoin en source d'énergie. Et il n'y a pas une poudre de perlimpinpin qui est capable de rentrer d'une cellule adipeuse et de brûler le gras qu'il y a là.
Mais pourquoi on est... si les gens ont déjà pensé ça, que les poudres peuvent faire maigrir, regardez, savez-vous quoi, j'ai déjà cru ces affaires-là, moi aussi, là. Mais je veux dire, c'est une infirmière clinicienne qui rencontre un médecin qui lui dit « Hey, j'ai pris de la poudre de perlimpinpin, puis ça a bien été, j'ai perdu du poids. » Et le médecin lui dit « Ouais, mais c'est, quel impact que ça a eu sur ton corps, cette poudre-là? Ben, j'ai été aux toilettes. » Pas capable de réaliser non. Que c'est de l'eau qu'elle perd.
Non. Ben, il y a pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas les connaissances, même si...
c'est des infirmières.
Je sais, mais c'est pas leur
ça
domaine.
Ça se que les croyances soient plus fortes que l'éducation
oui. Ah,
que
oui,
tu leur rentres dans la tête?
Carrément, très souvent. Très souvent. Il n'y a rien de pire qu'une croyance. En science, il n'y a rien de pire qu'une croyance. C'est vraiment assez spectaculaire. Il n'y a rien de pire que ça.
Fait que bref, pour en revenir à ma conjointe qui montait sur la balance, qui était découragée, elle a encore à ce jour jamais été capable de sortir le chiffre de son pourcentage de gras. Elle voulait revenir à 114 comme lorsqu'elle avait 21, elle a 36 maintenant.
Hey, c'est ça.
Puis quand elle s'entraîne, ben veut pas, elle fait des exercices, fait que ses muscles travaillent, grossissent. Fait que le poids n'est pas capable de
puis l'atteindre. As-tu pensé que psychologiquement, comment ça peut l'affecter? Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est atteindre un objectif irréaliste. Donc, elle est toujours, à chaque entraînement, en train de se sentir s'éloigner de son objectif.
Ouais.
Parce qu'elle ne pourra jamais l'atteindre. Et ça engendre un tas d'émotions négatives, de l'anxiété, du malaise. C'est pas sain. C'est pas une manière saine de s'entraîner.
Puis c'est toi qui me l'as dit, parce que je t'ai dit le pourcentage de gras qu'elle avait, c'était-tu 11?
Ouais, je pense que c'est ça.
Je pense que c'était 11, tu m'as dit tabarnak, Yann. Elle est trop basse, là.
Ben oui, c'est vraiment trop basse.
Je l'ai texté, j'ai dit t'es trop basse.
T'es trop basse, chérie. Ben, tu vois, c'est tout ça, cette notion aussi d'image corporelle où on fait croire aux gens que c'est important d'être maigre. Puis c'est pas parce que tu vois quelqu'un avec un six-pack ou une fille avec des fesses super moulées, là, que. C'est santé.
Ouais, ça, c'est un énigme pour moi. Comment des influenceurs peuvent avoir un 8-pack? Puis je regarde les Olympiques, là, Puis les gars, ils ont, tu sais, t'es voué pratiquement pas. Là. Les gars, c'est des athlètes olympiens qui ont pratiquement pas de six-pack. Mais l'influenceur, lui, il a un huit-pack. C'est quoi qui fait l'influenceur versus l'olympien?
Je comprends. Ben, c'est parce que, d'après moi, il crève de faim, ton influenceur. T'sais, c'est une perte de poids vraiment malsaine. Là, t'sais. À moins que génétiquement, il soit constitué avec, t'sais, avec le fait qu'il est plus défini musculairement. Mais outre ça, tu crèves de faim.
J'ai regardé Michael Phelps.
Où il s'entraîne 5 heures. Non, Michael Phelps. Ben Michael Phelps, il pouvait pas. OK, il faut que je t'explique une affaire. Là. La densité du gras, c'est. OK, la densité de l'eau, c'est 1. Ça va? La densité du gras, c'est 0.9. La densité d'un muscle, c'est 1.1. Un muscle, ça flotte pas.
Un muscle, ça ne flotte pas.
Bon. Si tu es trop musculaire, donc tu prends un culturiste, puis je l'envoie... Tu le cales, là. Ça va dans le fond de l'eau.
Ah ouais.
Donc, un gars en natation peut pas être trop juste musclé. Il faut qu'il y ait un peu de gras pour être capable
de flotter.
De bien flotter.
Wow! C'est-tu... J'ai l'impression des fois que tu étudies là-dedans.
Ouais, ça je pense qu'une couple d'années, d'après moi, là.
Hey, Doc Boucher, on va faire une très courte pause. On a plein de sujets. Genre, à chaque fois que tu viens, on placote.
On n'arrête pas, hein?
C'est ça.
Ben, on ne veut pas le temps passer.
Denis Boucher, on fait comment pour te rejoindre, advenant le cas où on veut te rencontrer parce que, véritablement, on veut perdre du poids puis ne jamais le reprendre?
DenisBoucher.com, aussi simple que ça. Puis vous avez toutes mes coordonnées. Si vous voulez m'appeler, c'est moi qui réponds. Vous voulez un rendez-vous en visioconférence pour me parler, c'est à moi que vous allez parler. Il y a juste moi qui est là.
T'es une multinationale en toi-même.
À moi-même.
On fait une courte pause, on revient. Marceau. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Merci d'être là, soit dit en passant. Ce soir, on passe la soirée avec l'excellent Doc Boucher, le spécialiste des petits gros. Écoute, avant de passer au... 3000 sujets qu'on avait prévu de jaser ensemble, toi et moi. On a parlé pendant la pause des joueurs de hockey. Des joueurs de hockey qui doivent, par leur sport, rester en forme. Et certains joueurs de hockey peuvent avoir un taux de gras plus bas que la normale qu'ils devraient avoir. Puis ça pourrait même leur nuire. Fait qu'un joueur de hockey qui a un 3% de gras, qui jase avec Doc Boucher, tu lui dis quoi?
T'en gâtes. Je te fais engraisser. Faut que je te ramène au moins 8% de gras.
Et pourquoi on a besoin de ce gras-là quand on est un athlète de haute performance?
Ben, pour la production d'énergie, parce que tu en as besoin. Tu as besoin de suffisamment de lipides dans ton organisme pour que tes cellules puissent se régénérer. Donc, si tu es trop bas, tu perds de l'efficacité en termes d'énergie, en termes de structure cellulaire. Alors, 3%, ça, c'est un culturiste qui va faire sa compétition puis qui tombe sans connaissance après, là. Parce qu'il est épuisé totalement, puis il a fait de la sèche, qu'on appelle. Là.
Ouais.
Fait que ça, c'est pas sain. C'est
il pas a fait de la sèche.
Oui, déshydraté.
Déshydraté totalement. Là.
Ouais, ouais.
C'est-tu le même processus pour un boxeur, maintenant?
Hey, j'ai eu un boxeur professionnel un jour. Ils ont fait ça, ils l'ont scrappé. OK? Puis il arrive sur ma balance à impédance. Personne ne trouvait ce qu'il y avait. Toujours des chutes de pression incroyables. Mm-hmm. Puis, quand j'ai embarqué sur ma balance à impédance, j'ai fait plusieurs mesures répétées, toujours déshydraté. Peu importe ce qu'il buvait, il était toujours déshydraté. Fait que quand on a trouvé le problème, c'est là que les médecins sont embarqués dans le processus. Puis que là, ils ont prescrit la médication, ils ont ajouté le sodium, le potassium. Je n'ai pas eu de nouvelles après, je ne sais pas ce que ça a donné, mais ça l'a scrappé totalement puis a brisé sa carrière.
Ah ouais. Puis je me suis toujours posé des questions par rapport à l'énergie que ça prenait pour pour perdre toute l'eau que t'as versus le lendemain ton combat. T'sais, parce que là, t'as la pesée officielle, puis le combat est le lendemain. Fait que en 12 heures, à peu près, il faut que tu te réhydrates,
ouais.
Alors que tu t'es déshydraté pendant plusieurs heures. L'impact que ça doit avoir sur le corps humain?
Il y en a qui vont bien le tolérer, mais comme lui, il ne l'a pas toléré, il y en a d'autres qui vont être totalement épuisés. Parce que toutes tes réactions chimiques se produisent dans l'eau. Si t'es déshydraté, t'es mort. Fait que tu vas à un extrême pour revenir le lendemain à un combat, tu peux pas être optimal. Et ça a une influence, systématique. Il y en a pour qui c'est plus dramatique, il y en a pour d'autres qui le tolèrent mieux, mais c'est pas santé.
Ouais, mais pourquoi on tolère encore ça si c'est nuisible à long terme pour les,
ben,
pour les
individus? C'est que je te dirais, t'as des vieilles mentalités, puis les gars veulent rester dans un créneau de poids plus bas. Donc ça fait partie de la game depuis des années.
Mais pour en revenir aux joueurs de hockey qui ont un taux de gras trop bas, toi, tu les fais grossir un peu. Ce que tu dis, c'est que la réserve énergétique, il faut toujours qu'elle soit là.
C'est important. Moi, en bas de 8%, quand j'avais des joueurs de hockey, c'était... Non. faut que tu aies au moins 8 % idéalement 10 % de gras.
Idéalement 10. Puis pour les filles?
Ah, écoute, les filles, je te dirais en bas de 17, c'est ça, je parle pas de culturiste, là. Je te dirais en bas de 17, c'est un peu rough.
OK. Autre sujet, l'appareil de musculation qui est le plus efficace selon le Doc Boucher.
Ouais, le muscle. Ton muscle. Ton muscle.
L'appareil de musculation le plus efficace pour me muscler, c'est mon muscle.
Ouais, parce que les gens... Je sais pas si ça
m'a fait un coup. Hein.
Ouais, les kettlebells. Je t'ai fait un bon coup. Hein. C'est quoi les kettlebells? Les petits poids avec une petite poignée. Là.
Oui, oui.
Bon, ça, quand ça a sorti, le monde pensait que c'était un nouvel appareil extraordinaire qui allait changer l'entraînement musculaire. Il y a 20 ans de ça, c'est le ballon qui a sorti. Tout le monde s'entraînait sur un ballon suisse. Après ça, tu as eu tel autre appareil. Mais là, les gens ne comprennent pas que peu importe l'appareil que tu vas utiliser, si je prends un poids libre de 5 kg, je prends une poulie avec une charge de 5 kg, je prends un sac de légumes de 5 kg, je suis capable d'attacher une poignée avec. Si je fais un nombre de répétitions donné, je vais avoir le même résultat.
La même affaire.
La même affaire. Le poids que tu utilises n'a pas d'influence sur ton entraînement.
5 livres, c'est 5 livres.
Exactement. C'est la charge mécanique que tu utilises qui va créer une réaction dans ton muscle, un stress métabolique qui va entraîner une adaptation du muscle.
Fait que c'est des modes qui passent.
Des modes qui passent. Exactement.
Moi, j'ai eu la fameuse mode là, du ceinturon qui donnait des électrocutions.
T'as pas fait ça!
Hey, j'avais 20 ans. C'est-tu le ab tuner?
Ah, je sais plus. Je sais de quoi tu parles. Hey, c'était tellement ridicule. Ouais,
je pense que c'était LCN. Puis là, la fameuse promo là, du ceinturon qui te donne des chocs électriques pour avoir un gros six-pack passe. Puis là, c'était là, oh ouais, c'est 100$. Bon, je pourrais l'essayer, c'est correct. Tu sais. Fait que j'appelle, je donne ma carte de crédit. Il m'envoie ça chez nous. Je reçois ça. C'est bien fait. Je le mets autour de mon corps. Puis là, il y avait différents degrés. Fait que là, moi, tu sais que...
Tu vas aller au plus haut degré.
Je suis un Adonis. Je suis un dieu grec. Fait que je m'en vais au niveau 5.
Puis le lendemain, tu marchais plus?
Ben non, mais le lendemain, je me suis rendu compte que je m'étais blessé. Là.
Mais oui.
Je m'étais blessé. Ça te donnait un choc électrique. Puis ton muscle devenait hyper tendu.
Ben oui.
Et écoute, j'ai compris que j'étais pas un athlète olympique le lendemain. Là.
Non, mais c'est parce que t'es allé en surutilisation de ton muscle.
Je me prenais pour Bruce Lee. Ça a l'air que Bruce Lee faisait ça, s'électrocuter pour avoir des meilleurs...
Ben oui, il y avait ça. Là. Il se mettait des électrodes partout. Mais ça donne presque zéro.
Ça donne rien.
Ça te prend une charge mécanique. C'est pas une stimulation électrique qui fait que ton muscle... Tout dépend. Réadaptation, des gens qui ont des problématiques de conduction nerveuse, ça va les aider à engendrer une stimulation. Mais toi, si tu veux développer ton muscle, c'est pas ça qui va t'aider là, du tout.
Non,
là.
Je confirme, ça n'a pas marché.
Non, puis je sais pas, à l'Université Laval, quand je faisais mes études au bac, il y avait le vieil appareil, je sais pas si tu avais vu ça, tu mettais un ceinturon sur les fesses, puis les messieurs brossaient le gros spofone là-dessus. Fait que c'était comme un système mécanique, puis là, ça brossait les fesses, puis les gens swingaient de partout, puis ils pensaient qu'ils allaient maigrir
oui,
avec ça.
C'était comme une guenille, là.
Ouais, c'est ça, une ceinture.
C'est
là,
c'était comme une guenille, tu mettais chaque bord du corps, puis tu zignais d'un bord, puis de l'autre.
Ouais, ça dit l'appareil, tu zignais d'un bord, puis de l'autre. C'est spectaculaire. C'est une antiquité. Ben non, ça n'a jamais marché. Mais hey, t'avais-tu écouté Mad Men, toi, l'émission, la série?
Ouais.
Bon, ben des années 50, là, c'est là qu'ils ont commencé à lancer ça, les ceinturons, ouais. Qui mettaient ses fesses électriques pour faire croire aux madames qu'elle allait maigrir.
Ouais. Mais ça n'avait jamais été étudié, c'est ça? C'était
quelqu'un qui a inventé ça.
En administration, il a compris qu'il y a des gens qui étaient idiots comme moi, là, qui allaient voir quelque chose à la télé. Ils disaient « Wow! »
Ben c'est ça, parce que c'est du marketing. On te fait croire à un résultat extraordinaire. Puis c'est toujours le même principe. C'est, peu importe l'appareil qu'on va te lancer, on va te promettre des résultats à l'intérieur de 30 jours. Et si tu n'as pas tes résultats à l'intérieur de 30 jours, on te rembourse. Mais ils savent qu'au maximum, 5 % des gens vont retourner l'appareil. Donc, ils budgètent dans le prix de vente. Et qu'ils s'en foutent, ils savent juste qu'ils vont avoir 5 % de retour.
C'est tout le temps la même affaire. T'sais, je me souviens du Habtronic. Il me semble que c'était ça. T'sais, c'était des athlètes olympiques. Les gars, ils étaient en shape. Les filles étaient en shape. Ils étaient tous avec leur Habtronic. Ils étaient tous beaux sourires. Puis après ça, tu avais un monsieur avec un sarrau blanc qui était probablement quelqu'un qui était un comédien.
Ben oui.
Qui disait nous avons étudié le corps, patati patata. Puis nous autres, on achetait ça comme des crétins.
C'est tellement ridicule.
Ouais.
C'est tellement ridicule. Chuck Norris n'avait fait un appareil qui ressemblait à du Pilates. Écoute, ça a vendu. C'était incroyable dans les années 80, à l'époque qui était très populaire, 80-90. Puis il y avait les mannequins. Je me demande si Christy Brinkley n'était pas là-dedans. Là,
elle était belle, elle.
Ouais, mais l'as-tu vu la photo à 60 ans, comment elle était sharp? Soit, ça fait quelques années, là.
Non.
Écoute, une beauté.
Ben oui.
Avec un corps de rêve à 63 ans. Puis là, quand ça a sorti la photo, là, il y a plein de madames jalouses qui se sont mises à l'insulter. Parce que, ben là, elle, elle doit être sa diète sévère.
Ben
puis
ouais.
Elle, elle doit être comme ça. La méchante fille qui est si belle à 63 ans. Jalouse.
Ben oui, ben oui. Hey, OK. Comment on fait pour se fixer un objectif de poids réaliste? Je reviens à ma conjointe, là, qu'elle, qui voulait peser la même chose qu'elle pesait quand elle avait 21 ans. Elle, c'était 114 livres.
Ouais.
Puis c'était pas une livre de plus, puis c'était pas une livre de moins, c'était 114 livres. Selon ce que tu me dis, c'est que c'était pas nécessairement réaliste à 36 ans de penser...
Non, puis penser que ton corps est le même à 36 ans qu'il ouais. l'était alors que tu étais adolescent.
Puis à mesure 5 à 9.
Oui, puis ta masse musculaire mature ou ta masse osseuse mature et ta masse musculaire mature jusqu'à 35 ans. Donc, t'as un poids supplémentaire en masse maigre. À 20 ans, j'avais le même pourcentage de gras que j'ai là. Puis, je pèsais 138 livres. J'en pèse 172.
Mais t'as le même pourcentage
de gras. J'ai le même foutu pourcentage de gras. Mais j'ai gagné en masse musculaire, en développement musculaire. Donc, c'est très différent. Donc, si moi, je voudrais revenir à 138 livres, oublie ça, ma masse maigre est de 147 livres. Je peux pas revenir à 138 livres. Tu vois-tu l'écart?
Oui,
Que j'ai tellement évolué que même si j'étais mort à l'instant même, là, tu m'enlevais tout le gras sur le corps, je pèserais 147 livres. Mais à l'époque, je pesais au total 138 livres. Donc, j'avais pas la même masse musculaire. J'ai plus de masse musculaire que j'ai de masse totale. J'avais une masse totale à cette époque-là. Mmh. Les gens ne le comprennent pas.
Ils font quoi pour calculer ça?
Ben, c'est le pourcentage de gras.
Donc, ça te prend un spécialiste, là?
Ben, ça te prend une balance impédance. Tu vas aller... Il y a des balances... Moi, mes clients vont acheter une balance à 50$ qui s'appelle Renfo ou la balance d'Under Armour Withings. Puis là, t'as ton pourcentage de gras. Fait que c'est pas compliqué. T'as ton poids. Si ton OK, faisons un chiffron. Tu pèses 100 kilos. T'as 20% de gras. OK? Donc, t'as 20 kilos de gras. La balance qui a l'autre 80 kilos, c'est de la masse maigre.
Mm-hmm.
Des muscles, des os, des viscères.
Je comprends.
C'est que ça. Déjà, tu as ta base. Et si tu sais que ta masse maigre, mettons que ta masse maigre est de 115 livres et que tu veux atteindre 114 livres, ça t'arrivera jamais. Tu vas être mort quand ça va t'arriver. Donc ça, c'est ta base d'intelligence, de savoir c'est quoi le poids que je peux me fixer. En sachant mon pourcentage de gras, mes gars, je les amène aux alentours de 20%, ou j'essaie de les baisser aux alentours de 15-16%, 20%, je suis bien content pour mes gars, puis mes femmes, entre 20 et 30, 28 et 32%, c'est là que je les arrête.
Tu dois te pogner des fois avec ta femme?
Jamais, pourquoi? Non, donc, pourquoi ça arriverait?
Ça arrive-tu des fois qu'elle te pose des questions par rapport à la santé, au poids et tout ça?
Très rare, parce ouais. qu'elle déteste comment je fais mon travail.
C'est vrai?
Elle haït ça quand je parle des petits gros. Hier, on avait un souper, OK? Elle dit, je suis pas capable de l'entendre. Fait que,
non, mais c'est parce que nos femmes sont toutes de même. Là. Nos blondes sont toutes comme ça.
Oui.
Au début, c'est « Ah, oh, t'es intelligent, t'es donc bien drôle, t'es donc bien comique. » Après ça, quand tu fais le cave exactement comme v'là 20 ans, mettons, « Ah, oh, je suis plus capable de t'entendre. »
Oui. Mm. Fait que quand je dis « Je fais maigrir les petits gros et les dodus, là, elle n'est pas capable, elle vient sans connaissance. » Fait qu'elle évite beaucoup de me parler
ben ouais.
de ce que je fais.
C'est ça, c'est sûr.
Mais pour son programme sur chaise, c'était parfait.
Oui, c'est ça. Mais ton souper hier, comment ça a été?
Écoute, ça a été bien. C'était au profit de la médecine culinaire, le cours de médecine culinaire du CHU.
Oui.
C'est mon collègue Michel Lucas qui organisait ça. Puis c'est à tous les étudiants de la place de l'Institut hôtelier de Québec qui ont fait un repas extraordinaire, multiples services, haute gastronomie. Puis c'est une soirée exceptionnelle.
La médecine culinaire.
Oui. Nous autres, bien, Michel Lucas. OK. Bon, ça, c'est les vraies évidences scientifiques. Michel, c'est un docteur en épidémiologie nutritionnelle. Lui, il étudie tout ce qui se passe de diète sur la planète, de manière de te nourrir, pour dire la science confirme que la meilleure manière de se nourrir, ça ressemble pas mal à la diète méditerranéenne. Du poisson, des fruits, des légumes. OK. Puis, dans la culture nord-américaine, il nous manque de légumes dans l'alimentation. Parce que les gens sont trop souvent au fast-food, trop là. Et si tu règles ça... Puis lui, il est comme moi, là. Si tu y parles de vegan, il veut rien savoir, c'est une religion. Si tu y parles de jeûne intermittent... La semaine passée, on se parlait de jeûne intermittent, puis on était crampé de rire.
On va en parler, là.
On se tord de rire, ça n'avait pas de bon sens. Puis on se demandait pourquoi le monde était con de même. Puis j'ai dit, tu sais, Michel, comment ça on est les deux avec des études avancées? Puis là, on arrive avec des médecins, d'autres PhD, comme nous autres, là, avec des doctorats, qui prônent des affaires de même qui n'ont pas de sens. Bien, il dit, Denis, c'est l'attrait de l'argent. Quand, à un moment donné, tu arrives à vouloir faire de l'argent là-dedans, là, puis que tu dis, puis il y en a un là, qui prône une poudre particulière, qui a des résultats particuliers, « Hey, mon homme, t'as un PhD, t'as un doctorat, là. Ce que tu racontes, c'est pas vrai. » Puis il y en a, ce qu'on jasait encore, c'était la longévité. Ce qui vend le plus, c'est de faire croire au monde qu'en faisant telle chose, en mangeant telle chose ou en prenant telle affaire ou en t'entraînant de telle manière, tu vas vivre plus longtemps. Puis on disait, mais ça fait pas de sens. Parce que si tu veux savoir si une personne va vivre longtemps, une population va vivre plus longtemps, faut que tu l'étudies sur 50 ans. T'en connais-tu, toi, des études qui ont pris du monde sur 50 ans pour voir si elle a vécu plus longtemps? Donc, même s'ils te disent que la science démontre que ça a telle influence sur le corps et que tu vas vivre plus longtemps, c'est du court terme. Sur le long terme, c'est pas vrai.
Quand tu me dis que qu'on manque de légumes dans notre alimentation, tu sais, moi, j'ai un de mes gars qui mange pas de légumes pantoute, puis l'autre qui veut rien savoir du fromage.
OK.
Sauf quand je colle la pizza.
Ah, ben oui.
Là, il mange la pizza, puis c'est pas grave s'il y a des petits piments au travers, puis il y a pas de trouble. C'est bizarre, hein, les enfants?
Ouais.
Ça va, ils vont-tu...
Il y a un contexte alimentaire.
Ils vont-tu ressembler à leur père à un moment donné?
Tu parles top shape avec un six-pack, là?
Ah, oui. Ben, c'est vrai qu'on mange pas assez de légumes. Puis, tu sais, l'autre jour, j'avais comme réflexion, la nourriture transformée, c'est dur de plus en trouver. Là. Il y en a partout.
Ben, écoute.
Puis là, tu essaies de trouver le contraire de la nourriture transformée, puis tu dis, hey boy, OK, j'ai plus grand choix. Là.
Non. Moi, j'ai dit, la société nord-américaine, c'est une usine de production de gros. Quelqu'un qui choisit de rester mince dans le monde moderne, c'est un super-héros. Parce qu'il y a plein de tentations, il y a la facilité, il y a la sédentarité. C'est vraiment un choix de vie là, de dire, moi, je tiens tellement ma santé, je veux tellement être bien dans mon corps que je vise un poids santé, le maintenir pour le reste de ma vie, puis faire de l'exercice pour le reste de ma vie, de façon intelligente, pas m'épuiser. Et t'es sur une autre planète.
Ouais, tu sais, moi, j'essaie de me conserver en santé pour mes enfants. Mais d'abord, avant tout, pour moi-même, pour mes enfants, mais aussi pour manger ce que je veux.
Faut être du plaisir. Temps, comme, ben oui.
Comme
ben
après-midi, j'ai été manger une poutine aux fromageries Victoria.
Ouais.
Ben, tu sais quoi, ça, c'est mon cheat day de la semaine. Mais j'ai joué au hockey 3 fois cette semaine.
C'est ça.
J'ai été courir 1 fois cette semaine. J'ai été en salle 1 fois cette semaine aussi. Fait que je peux me permettre une fois de temps en temps de me gâter. Ben, je dis de me gâter, mais en même temps, tu comprends que je sais très bien que manger des frites, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Mais en même temps, moi, je me récompense d'avoir été au gym, d'avoir couru, d'aller au hockey. Puis ça me fait du bien.
Ah oui?
C'est réconfortant.
Hey, je suis allé manger un club sandwich, là, bourré de frites là, dans l'assiette. Compter 15 frites. Manger 15 frites.
T'as mangé 15 frites. T'as-tu ajouté du sel?
Non, je n'ai pas ajouté de sel. J'aime pas ça.
Même
mais tu vois, ça fait que...
C'est McDo, les frites salées, là, je rajoute du sel.
Tu rajoutes, il faut que ça goûte salé.
Ah,
vraiment.
Ouais,
mais tu vois, tu peux manger de tout, mais il faut que ça corresponde à ton contexte de journée dans ton alimentation. Si t'as, admettons, t'as 60 grammes de gras à manger, c'est sûr que tes frites, c'est du gras saturé. Oui? Mais normalement, ce que tu dois trouver dans ton alimentation, c'est que si t'as 60 grammes de gras saturé, de 60 grammes de gras à manger, normalement, c'est un tiers. Un gros monoinsaturé, un tiers monoinsaturé, un tiers de gras saturé, pas plus, puis polyinsaturé. Idéalement le plus.
Ça, j'apprends tout ça avec Doc Boucher.
Ouais, t'as pas. Donc, c'est ça. Donc, je sais que ça, c'est des gras saturés, puis je veux pas me bourrer de ça pour faire attention à mon cœur, à mon cholestérol, puis tout ça. Mais je veux pas m'en priver. Donc, je sais que dans ma journée, je suis à tant de grammes de gras, puis je peux me permettre 10 ou 15 frites le soir. Donc, la montagne de frites qui est là, je passerai pas à travers. Je vais la gérer.
J'aime ça.
Je suis capable de le faire. J'ai pas de privation.
C'est juste réfléchir.
Hey, Oui. Juste. Puis qui veut le faire? Ouais. C'est ça la différence.
Bien, ceux qui veulent le faire. DocBoucher.com. DennisBoucher.com,
yes sir.
Ben oui. On te trouve où à part ça? T'es-tu.
Hey,
t'es avec Jeff une fois de temps en temps?
Jeff aux deux semaines.
C'est RadioPirate.com.
RadioPirate.com. Tu vas me trouver sur LinkedIn. Tu vas me trouver sur Facebook. Tu vas me trouver sur Twitter. Tu vas me trouver occasionnellement sur TikTok.
C'est pas compliqué quand ta femme te cherche. Elle te trouve partout.
Elle te trouve partout. Elle voit toutes les conneries que je peux dire.
Mais c'est pour ça qu'ils nous aiment.
On est extraordinaire.
On est divertissant. DennisBoucher.com, merci beaucoup d'être passé. Puis on se rejase dans les prochaines semaines, mon ami.
Quand t'es prêt.
Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Puis on se rejase lundi, 11h, pour ce qui est